mais ça m'intéresse d'autant plus.
Pas encore.
Et je crois qu'il faut qu'on s'excuse collectivement, même si ce n'est pas dramatique du tout, du changement de programme. Donc on va procéder de la manière suivante. Il va y avoir deux interventions d'à peu près une demi-heure, puis une discussion, puis une pause café, salle 2 au premier étage. Et puis on terminera cette journée très riche par deux dialogues, deux conversations successives dans la seconde moitié de l'après-midi. Donc très rapidement, pour ne pas voler de temps aux intervenants, je laisse la parole à Perrine Simon-Naoum, que je ne présente pas, sinon pour dire qu'elle est membre du CESPRA et qu'elle est directrice de recherche au CNRS.
Et je vais laisser. T'as tout dit.
Merci beaucoup. Si l'on ne peut dissiper les soupçons de ceux qui vous écoutent, on peut tenter de dissiper les équivoques. Les trois livres dont je vais parler cet après-midi occupent, à mon sens, une place singulière dans l'œuvre d'Aron. Place qui varie d'ailleurs selon qu'on les considère comme l'expression des positions d'Aron au moment où furent prononcés les cours dont ils sont issus, ou qu'on en apprécie la portée dans le contexte des années 60, époque de leur publication. Dans tous les cas, ils témoignent, me semble-t-il, de la singularité du point de vue aronien et de la place à part que celui-ci occupe dans les débats scientifiques. Après le mythe de la Révolution, dans l'opium des intellectuels, c'est un autre mythe que Raymond Aron entreprend de combattre à partir de 1955 et plus encore au début des années 1960, lorsque sont publiés donc les trois volumes dont il va être question aujourd'hui, les 18 leçons sur la société industrielle et la lutte des classes et démocratie et totalitarisme. Le mythe qu'il entreprend de combattre, c'est celui du rattrapage du niveau des économies occidentales par les économies socialistes, et de l'URSS en particulier, ainsi que celui du rapprochement de leur modèle politique et social. Il y consacre 10 années de sa vie et tente de faire passer la leçon là où cela lui paraît le plus nécessaire, auprès des hautes sphères politiques et administratives, mais aussi au sein des amphithéâtres de la Sorbonne. Ce sera l'occasion donc de 3 cours, puis de 3 livres, les 18 leçons sur la société industrielle, la lutte des classes et démocratie et totalitarisme, lesquels entreprennent de réfléchir sur les sociétés contemporaines, sans jamais pourtant oublier les leçons de l'histoire. Et encore moins, je dirais, l'horizon de la démocratie qui, pour Aron, demeure un horizon régulateur. À ces 3 ouvrages, on pourrait d'ailleurs ajouter, je ne le ferai pas aujourd'hui, mais peut-être dans une étude ultérieure, on pourrait également ajouter les désillusions du progrès qui soumettaient à l'épreuve de la crise les acquis des années de développement et qui tirent les leçons sur un ton plus pessimiste de l'échec du réalisme et de la maturité politique qu'appelait de ses voeux la trilogie des années 1960. Ces 3 ouvrages doivent être pris comme un tout, comme je tenterai de le montrer dans le premier temps de mon propos, qui, de l'économie à la politique, en passant par les structures sociales, place donc la démocratie au cœur de la question des sociétés industrielles. Au-delà, et ce sera le second temps de mon exposé, il s'agirait d'interroger ce que Aron appelait l'intention sociologique, qui en est le fil conducteur, et témoigne du fait que la politique n'est jamais une donnée autonome chez lui, mais renvoie toujours, par-delà la méthode, à une pensée de l'histoire. Elle ancre, se faisant profondément, la question de la démocratie dans la philosophie, Aron trouvant son inspiration, peut-être plus encore que chez Tocqueville ou chez Marx, dans un dialogue avec Montesquieu qui constituera le 3e et dernier temps de cette présentation. Les 3 livres, publiés donc entre 1962 et 1965, doivent se lire comme un tout. Et sans doute, cette architecture particulière et l'ampleur du propos dont elle témoigne expliquent que si on ne lit plus guère aujourd'hui le travail en miettes de George Friedman ou si l'on cite Jean Fourastier pour ses 30 glorieuses, mais rarement, me semble-t-il, au-delà, la trilogie d'Aron est en fait conservée tout son intérêt. Raymond Aron occupe, au moment où sont publiés les cours, donc le début des années 1960, une position très singulière dans le paysage français. Placé au banc des intellectuels en raison de la publication de l'opium des intellectuels depuis 1955, il est en revanche en quelque sorte au centre du dispositif universitaire depuis sa chaire de sociologie à la Sorbonne. Pourtant, et c'est le premier sujet d'étonnement ou d'interrogation, son discours dans ses ouvrages ne se confond ni avec celui des économistes, ni avec celui des sociologues, et je dirais encore moins avec celui des juristes ou des spécialistes de sciences politiques. C'est vrai qu'on y trouve des références à l'histoire immédiate. On peut penser par exemple, enfin je pense que l'exemple le plus frappant est celui des journées de mai 1958 de l'insurrection en Algérie sur le récit desquels se clôt démocratie et totalitarisme, mais ça n'empêche jamais ces ouvrages de garder une large portée théorique. Celle-ci vise d'une part à construire des outils d'analyse à travers une stricte délimitation des interactions entre politique et économique, et à identifier d'autre part les éléments qui définissent les sociétés. Alors le souci d'Aron, on l'a dit déjà ce matin, a toujours été de lutter contre la confusion des esprits et des discours. Et au moment où il rédige ses cours, donc au milieu des années 1950, l'hypothèse d'une convergence entre les États-Unis et les démocraties occidentales d'un côté et les régimes socialistes, notamment l'Union soviétique de l'autre, se diffuse parmi les élites dirigeantes et intellectuelles occidentales. On peut citer par exemple en 1960 un article écrit par l'économiste américain Rostov, vous savez, le futur grand théoricien des étapes de la croissance, article dans lequel il annonce que, à terme, l'Union soviétique devrait rejoindre la société de consommation. Et on retrouve la même idée d'ailleurs dans différents champs du savoir, on la retrouve chez Galbraith, on la retrouve chez Isaac Deutscher, le biographe de, je vois Pierre qui hausse les sourcils, le biographe de Staline et Trotsky, on la retrouve sous un aspect plus psychanalytique chez Herbert Marcuse. En fait, cette thèse recouvre deux idées. La première postule que les systèmes économiques, sociaux et politiques de l'Ouest et de l'Est ont une évolution analogue. La seconde idée, qu'ils vont finir par converger, formant à terme une société industrielle intégrale. Les partisans de cette théorie, donc, se divisent eux-mêmes à leur tour en deux groupes. Ceux pour lesquels, si vous voulez, cette convergence va s'effectuer par finalement la domination, la mainmise d'un système, la victoire d'un système sur un autre, et l'autre camp pour lequel qui défend au contraire donc ce qu'on appelle le modèle de la similarisation. Et cette idée de similarisation, donc de rapprochement progressif de l'un et l'autre modèle, se trouve systématisée par un sociologue américain, Sorokin, mais aussi par un économiste néerlandais, et elle est reprise par des politologues, par des anthropologues, à partir de typologies donc empruntées à la fois à l'économie et au droit constitutionnel. Il me semble que c'est contre cette théorie qu'Aron construit le triptyque qui ouvre son magistère sociologique. Il va en effet s'attacher à réfuter toute forme de convergence, reprenant l'un après l'autre, donc l'économique, le social et le politique. Après avoir défini la spécificité des sociétés industrielles, à savoir le phénomène de croissance dont elles bénéficient sur la durée, phénomène qui est, vous le savez, tout à fait exceptionnel donc, dans l'histoire, Aron montre comment les différentes sociétés contemporaines s'organisent donc à partir de cette donnée qui est l'expansion économique. Il se retient néanmoins de reporter tout le poids de la démonstration sur les chiffres. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'il retrace historiquement, si je puis dire, le cadre intellectuel des deux modèles de croissance. Un modèle donc occidental, redistributif, un autre modèle socialiste. Et il montre comment chacun donc repose sur des choix historiques spécifiques. S'ils répondent peut-être à une légitimité historique propre, démontre à l'aide de statistiques, si vous voulez, des différences importantes entre les deux modèles, à la fois au niveau quantitatif, donc taux de croissance par exemple entre les différents secteurs de l'économie, et qualitatif, à savoir donc niveau de vie et consommation des populations. Ainsi, les dirigeants soviétiques qui se sont orientés vers une planification totale et ont mis l'accent, vous le savez, sur l'industrie lourde au détriment des biens intermédiaires et des biens de consommation, obtiennent-ils, comme ils le montrent, un mode de croissance moins efficace pour des raisons que les économistes n'ont pas de mal à expliquer. Mais ce que montre Aron, c'est que sous des dehors économiques, on est en réalité en présence de choix qui sont avant tout politiques et idéologiques. De façon assez prophétique, d'ailleurs, il a toute une série de développements sur les problèmes qui vont se poser à l'Union soviétique à partir de l'échec de l'agriculture et de la production de blé. Et donc, sa conclusion, si vous voulez, pour ce premier volume, les 18 leçons, l'une de ses conclusions sur ces deux modèles, c'est qu'il pourrait y avoir... S'il devait y avoir, plus exactement, une convergence des économies, cela impliquerait en tout cas que les dirigeants soviétiques renoncent à l'objectif de puissance qui a toujours déterminé leur politique depuis 1928. Sur le plan politique, maintenant, Aron commence par rappeler la définition des différents types de régimes que donne la philosophie politique d'Aristote à Max Weber. Puis il propose sa propre classification. Et celle-ci met en regard, vous le savez, à la fois enfin, ce qu'il appelle les régimes constitutionnels pluralistes opposés aux régimes à tendance monopolistique. Il applique ensuite cette typologie aux différents régimes contemporains, montrant comment, à partir de ces idéotypes, ceux-ci mêlent des traits empruntés aux deux modèles. La figure de ces régimes émerge d'une double hypothèse. D'une part, la première hypothèse, si vous voulez, l'idée que, selon Aron, le régime soviétique ne pourra à terme maintenir des principes socialistes trop rigides. Seconde idée, cette fois-ci on est du côté occidental, l'idée du caractère socialisant, Sylvie en a parlé tout à l'heure, des régimes occidentaux à travers les transferts sociaux. Idée qui, donc, bizarrement, a fait que certains commentateurs ont rangé Aron parmi les partisans de cette théorie de la convergence. Voilà. En fait, rien de plus opposé, me semble-t-il, à la thèse qu'il développe en réalité, puisque l'hypothèse centrale de la trilogie, selon laquelle, si vous voulez, le caractère de la société industrielle est insuffisant à déterminer la forme des régimes, ne signifie pas pour autant dans son esprit que socialisme et démocratie soient deux régimes semblables. Elle indique au contraire, et ce sera le troisième temps de la démonstration, que socialisme, qu'il faut pour caractériser le socialisme et la démocratie, examiner les fondements de leur organisation juridique et politique. Alors, partie de l'économie et du phénomène nouveau que représente la croissance au XXe siècle, Aron en dégage ce qui me semble être pour lui la manifestation sociale centrale, à savoir la rivalité des groupes sociaux pour le partage des fruits de la croissance, et en trouve la traduction dans la répartition du pouvoir politique. La société industrielle seule, donc on le voit, ne saurait induire une définition de la démocratie. Second temps de cet exposé, pour montrer donc comment le politique vient finalement, le politique et le social viennent appuyer cette démonstration économique. Il s'agit en effet pour Aron, au cours de ces trois années de cours, je cite, de soumettre à l'expérience et à la critique l'hypothèse d'une détermination unilatérale des sociétés par l'économie, ce que Sylvie rappelait tout à l'heure. L'architecture des cours conclut ainsi à la primauté du politique. Celle-ci ne doit pas se confondre avec l'idée d'une causalité historique, hein, qui ferait croire d'ailleurs qu'une fois fondée, la démocratie serait définitivement installée. En fait, il s'agit pour Aron de montrer que l'organisation des pouvoirs constitue la caractéristique fondamentale des collectivités, dans la mesure où elle renvoie à la nature des peuples et à la conscience des citoyens. La démonstration d'Aron à ce moment-là est double. Au-delà des partisans de la théorie de la convergence, ses adversaires désignés me paraissent être, plus encore que Marx lui-même, on l'a dit tout à l'heure, les tenants d'un marxisme orthodoxe. Ainsi, consacre-t-il deux chapitres des 18 leçons à contredire la thèse de l'autodestruction du capitalisme, encore largement partagée à l'époque, donc contredite à la fois par l'observation à travers les taux de productivité, mais aussi par l'ensemble de l'expérience historique des économies occidentales depuis le début du XXe siècle. De la même façon, Aron avance que Marx n'a jamais prétendu subordonner la politique à l'économie. Il a, dit-il, constaté qu'au lendemain de la Révolution française, l'égalité n'était pas effective et qu'il fallait la réaliser. D'où son idée que la révolution à venir se situerait du côté de l'économie. Mais finalement, ce sont ces épigones qui en ont tiré une interprétation menant à un pouvoir totalitaire. De la même façon, dit Aron, Marx n'a pas du tout annoncé la disparition de l'État. Une interprétation abusive a conduit à assimiler la disparition de l'exploitation d'une classe par une autre à celle de l'État, là où Marx, en réalité, dans la ligne de Saint-Simon, se contentait de prédire la substitution de l'administration des choses, je cite, au gouvernement des personnes. La confrontation que mène Aron dans ses trois ouvrages entre la réalité soviétique et la doctrine marxiste met ainsi à mal l'unité de la théorie marxiste dans laquelle il voit s'enraciner le prophétisme historique. La célèbre métaphore sous le signe de laquelle Aron place l'avenir de la démocratie française dans démocratie et totalitarisme, donc vous savez cette opposition entre ce qu'il appelle le fil de l'épée, et encore une fois on est en mai 1958, donc au moment où la 4e République s'apprête à disparaître et où De Gaulle revient au pouvoir, et ce qu'il appelle au contraire le fil de soie de la légalité, révèle au-delà, me semble-t-il, la manière dont se noue dans la sociologie aronienne, les fils d'une recherche entamée au moment de la guerre, et ce même plus ancien de la mise en question des philosophies de l'histoire. Le politique devient alors le lieu où théorie et réalité, ou plutôt, comme il le dira un peu plus tard lui-même dans un article « Science et conscience », se confrontent et s'équilibrent. Et le problème qu'il se pose au milieu des années 1950, se présente donc sous un double aspect. D'une part, celui de la stabilité interne des démocraties, dont l'autre face n'est en réalité que la validité, enfin que... Dont l'autre face n'est autre, finalement, que la validité du prophétisme marxiste, ce que certains ont circonscrit à la théorie de l'idéologie, ou ce qu'on a appelé l'idéocratie, mais qui renvoie en réalité à la nature de la philosophie. Et pour cette raison, donc, il me semble qu'on ne peut pas lire la trilogie de la même manière si on se place dans les années 1950, donc entre, si vous voulez, 55 et 58, année où les cours furent prononcés, ou dans l'ambiance de la décennie suivante. La trilogie des années 1960 s'inscrit donc incontestablement, me semble, dans la continuité des années de guerre, tout autant qu'elle trouve son origine dans les soubresauts nés de la décolonisation, notamment de la guerre d'Algérie. Et la réflexion qui court en filigrane est celle de savoir à quelles conditions les démocraties sont-elles stables. Et c'est déjà, en réalité, une interrogation que vous trouvez dans les articles de La France libre. La réponse qu'apporte Aron est double. Elles doivent être légitimes et efficaces, ce qui implique, selon lui, la cohérence entre la pluralité des régimes, des valeurs et des institutions politiques. D'où, si vous voulez, cette opposition centrale, pour lui, dans les deux derniers volumes, entre pluralisme et monopole. Dans un régime pluraliste, la légitimité requiert l'acceptation des règles fondamentales par une large majorité des citoyens. Et là encore, je crois qu'on trouve l'écho de sa condamnation du régime de Vichy. De là aussi, l'importance qu'il accorde aux partis, ce qui est assez surprenant, puisque les partis n'ont jamais joué un rôle, alors, dans la 4e République, si, mais par la suite, dans la 5e République, les partis, vous le savez, sont même absents de la Constitution. Et donc là, ça renvoie beaucoup plus aux régimes anglo-saxons qu'aux régimes français proprement dit. L'analyse du rôle des partis en démocratie est originale dans la mesure où Aron ne cherche pas, comme Max Weber, à en faire une typologie, pas plus d'ailleurs qu'il ne les classe selon un critère de représentativité sociologique. Et en fait, le critère retenu est beaucoup plus, me semble-t-il, celui de leur efficacité démocratique. Le système des partis, pour lui, c'est celui qui vise à assurer l'accord le plus large possible et le plus représentatif. Et en ce sens, le but qu'Aron fixe à une démocratie, c'est moins finalement de rechercher une règle constitutionnelle que l'accord entre cette règle et la structure de la représentation du système des partis. Du coup, on comprend, me semble-t-il, l'importance qu'il accorde à la circulation des élites, qui doit permettre également ce qu'il appelle très joliment une discipline des ambitions. Dernier problème, je n'y reviens pas parce que je n'ai pas le temps, celui de la corruption des dirigeants, et encore une fois, il faut se souvenir de la date des cours. Alors la longévité des démocraties dans les sociétés industrielles est liée donc à la fois à cette efficacité. Cette efficacité se traduit à travers le rapport finalement qui va s'établir entre concurrence économique et concurrence politique, à savoir partage des fruits de la croissance et représentation politique. Aron met en avant le fait que les citoyens sont également des consommateurs. La légitimité politique seule s'avère donc insuffisante, et là encore, il faut se souvenir des analyses sur Vichy, à assurer la continuité des démocraties. Celle-ci doit aussi faire preuve d'efficacité. Lorsque la concurrence économique s'avère trop forte, au point d'être politiquement destructrice, alors les dirigeants politiques doivent composer avec les intérêts divergents pour en amortir les effets à travers les règles de la concurrence politique. Aron développe cette idée sous une première forme dans La lutte des classes, dont il dira d'ailleurs quelques années plus tard que pour lui c'est vraiment le cœur, je crois, de ces trois ouvrages. Et l'analyse des classes dirigeantes qu'il y développe constitue en effet non seulement à l'époque un apport à l'étude de ce qu'on appelait alors la sociologie des élites et des structures sociales, mais également, me semble-t-il, vraiment le maillon central à partir duquel il fonde la supériorité des régimes pluralistes constitutionnels, qu'il va encore approfondir dans « Démocratie et totalitarisme ». Le problème des classes, comme il l'écrira plus tard dans ses études politiques, pose, je cite, « le problème éternel de l'unité sociale, de l'amitié entre les citoyens ». La stratégie qu'emploie ici Aron consiste en fait à détacher le concept de lutte des classes, proprement dit, du seul usage marxiste, pour le construire donc comme un des concepts centraux de la société industrielle, redéfini ainsi après Auguste Comte. Ce déplacement, en fait, ne résulte pas d'une reprise de la notion elle-même, mais se fait sous le signe d'une opération intellectuelle consistant à penser la société non plus en partant des concepts, mais des problèmes dont ceux-ci se font la traduction. Ainsi, la lutte des classes n'est-elle pas seulement l'horizon que Marx propose à la disparition du capitalisme, mais finalement devient l'expression de cette tension par excellence aux yeux d'Aron qui caractérise les sociétés industrielles contemporaines, tension entre égalité de droit et inégalité de fait, née du phénomène nouveau de la croissance. D'où la fascination des sociétés modernes, dit-il, à l'égard de cette lutte des classes, mais en même temps leur difficulté à y répondre. Certains auteurs, Pareto, Burnham, Schumpeter, ont apporté quelques éléments, mais qui se révèlent encore insuffisants à ses yeux. Alors, je vais peut-être passer sur les quatre groupes qu'il isole, juste quand même pour vous dire que de ces quatre groupes, donc les gestionnaires des moyens de production, les intellectuels, les dirigeants politiques et ce qu'il appelle les meneurs de masse ou les meneurs de groupe, ce sont les hommes politiques et les meneurs de groupe qui vont constituer pour lui le maillon essentiel de l'organisation démocratique. Et tout le problème d'Aron est de montrer comment se joue donc la circulation de ces élites, comment ce qui importe pour la démocratie, c'est de rallier à elle finalement dans un consensus non seulement les dirigeants politiques, mais surtout ces meneurs de groupe qu'ils partagent entre ceux qui sont acquis au parlementarisme, ce qu'il appelle les parlementaires, et ce qu'il appelle les démagogues. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que, là encore, je crois que c'est dans le fil de ces analyses précédentes, notamment dans le fil de l'opium des intellectuels, dont on a dit que, plus encore que contre Sartre, je crois que c'est contre Merleau-Ponty qu'il est écrit, c'est-à-dire contre ces gens qui faisaient une faute. Enfin, je pense que la seule faute vraiment aux yeux d'Aron, c'est-à-dire l'inconséquence philosophique. Eh bien, du côté de l'analyse de la démocratie, c'est la même chose. Ceux auxquels il s'adresse, ce sont vraiment ceux qui n'ont pas compris que la démocratie procède d'un choix, et ceux qui cherchent à l'affaiblir. Et ce thème du choix, à mon sens, fait ici le lien avec la philosophie. La politique, pour Aron, n'est pas le lieu de la perfection, c'est encore moins celui de la morale. En revanche, pour lui, les acteurs comme les citoyens doivent se montrer conséquents. Ils opèrent des choix dont ils doivent mesurer les conséquences et avec lesquels leur conduite doit s'accorder. Aron articule ainsi politique et philosophie, non pas donc à la manière des philosophes classiques qui pensaient l'art de gouverner, mais beaucoup plus dans une conception qui relie, me semble-t-il, pensée et action, que reconfigure donc la relation à l'histoire et qui ouvre sur une vision pragmatique. J'en arrive donc à mon dernier dernier point, l'idée que on trouve dans les analyses de Vichy, encore une fois, ce que j'appelais la généalogie des conceptions aroniennes de la politique. Si Aron dit avoir commencé à réfléchir au thème de la société industrielle à la suite d'un projet de comparaison de la théorie des classes chez Marx et chez Pareto, dont il dit d'ailleurs qu'il a écrit une partie du manuscrit. En fait, il me semble que ce sont les articles consacrés au régime de Vichy qui sont pour lui, on l'a déjà dit ce matin, l'occasion d'inscrire une pensée de la liberté dans une définition de la politique. Et sans doute, c'est ainsi qu'il faut comprendre le primat de la politique, posé non pas donc, comme un déterminisme, mais bien comme l'expression d'un choix, celui que font ensemble et dans un consensus renouvelé les individus, des relations qui les lient entre eux et que reflète le type de régime qu'ils se donnent. Et c'est ce thème du choix donc que développent les dernières analyses de démocratie et totalitarisme, ce qui explique aussi peut-être qu'entre le moment où les cours ont été prononcés, donc où les événements avaient immédiatement lieu, et les 5 ou 6 années plus tard où ils ont été publiés, finalement Aron n'ait rien changé. Je veux dire, il n'a pas supprimé des analyses en se disant qu'elles seraient obsolètes et qu'il valait mieux passer à quelque chose de plus contemporain. La typologie des régimes engage en effet bien plus chez lui que l'exercice du pouvoir. C'est vraiment le sens même de l'existence humaine. Juste cette citation issue des dernières pages de Démocratie et totalitarisme. « Les hommes ne sont humains que s'ils obéissent et commandent humainement. » Sans doute, est-ce pour cette raison qu'Aron accorde dans son étude la meilleure part aux philosophes du politique, qui, jusqu'à l'âge classique, voyaient encore dans cette activité la manifestation de l'essence humaine, et beaucoup moins finalement aux sociologues, Durkheim en particulier, voire même aux juristes du XXe siècle. Alors, j'en viendrai à m'interroger finalement sur ce passage de la philosophie à la sociologie d'Aron, c'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment là un passage, est-ce qu'on peut voir dans ces cours des années 55-58 l'ouverture d'une troisième étape dans la vie intellectuelle d'Aron, il y aurait eu la philosophie, il y aurait eu les relations internationales et il y aurait désormais la sociologie. En fait, il me semble que c'est la figure de Montesquieu, à laquelle d'ailleurs Aron consacre un cours l'année même de celui sur la lutte des classes, plus encore peut-être que celle de Marx à l'époque ou que celle de Tocqueville, qui me paraît éclairer sa démarche. Et Montesquieu, auquel sera consacré donc le premier chapitre, hein, vous le savez, des étapes de la pensée sociologique, occupe en effet une place centrale et assez surprenante dans la trilogie des années 60. Aron a retenu de l'esprit des lois la nécessité de construire un point de vue qui tienne compte de la complexité des objets étudiés. En fait, le problème, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut étudier les phénomènes sociaux sans les réduire à une unité qui serait en quelque sorte imaginaire. La position de Montesquieu, soucieux d'ouvrir un champ nouveau de la connaissance et qui cherche en fait à ordonner la multiplicité des aspects du réel, permet d'en comprendre en même temps les transformations. Et là où Montesquieu, lui, fait appel au droit comme expression des mœurs, Aron confie cette mission à la philosophie. La lecture qu'il fait de Montesquieu nous renseigne sur la place donc, que tient le regard sociologique au sein de sa philosophie, ce qu'il va nommer dans un entretien de 1983, je cite, une zone intermédiaire entre la philosophie sociale et la science sociale. À Montesquieu, il emprunte non seulement l'amplitude du regard sur la société, donc tenter de saisir la totalité du social, mais la volonté de mettre en relation différents secteurs de la société pour en saisir l'agencement politique. D'où l'usage de la notion de principe. Désireux de ne pas apparaître néanmoins comme un esprit dogmatique, Aaron donc part, vous l'avez vu, en quelque sorte, du terrain de l'adversaire, donc du plan économique, mais c'est à la lumière de la lutte des classes que s'éclaire le principe central des sociétés contemporaines. Et c'est là, je crois, que sa pensée se déploie dans toute son ampleur, à travers la construction d'un concept original, celui de classe dirigeante, redéfinissant dans le même temps la chose politique distincte de la chose publique et dont il fait l'horizon de la réflexion de chacun. L'organisation des groupes sociaux noue en quelque sorte ensemble à la fois les notions de répartition des revenus et des fruits de la croissance, d'une part, mais également la légitimité et l'autorité qui en découle à travers l'idée centrale de la démocratie, définie comme une société de conflits, à la fois parce que ceux-ci en sont l'essence et qu'ils manifestent le pluralisme des opinions qu'elle assure, idée qu'on retrouvera chez des penseurs comme François Furet ou Marcel Gauchet. Il y a cependant chez Aaron, et j'en terminerai par là, une tentative pour dépasser Montesquieu, de définir ce qu'il appelle un véritable esprit des institutions contemporaines, dans la mesure où il affirme, contrairement à ce dernier, le rôle prédominant que jouent dans une société non seulement ceux qui les dirigent, mais également les gouvernés. La contradiction qu'il notait entre le Montesquieu sociologue et le Montesquieu moraliste, celui qui analyse la société se défendant de désigner ce qui serait à ses yeux le meilleur régime et celui qui prescrit des remèdes, peut ainsi être surmonté. C'est dans cette lecture donc de Montesquieu que l'on trouve le principe d'une science dont les conséquences sont aussi politiques. L'idée d'une sociologie qui, tout en conservant un caractère d'objectivité, se montrerait soucieuse de sa traduction pratique. Telle est la conclusion majeure, me semble-t-il, de ce cycle de livres qui ouvre une nouvelle phase de la réflexion aaronienne sur le politique, mais conserve son rôle premier à la théorie. C'est donc par la science qu'on dépasse l'idéologie. Ainsi, Aaron répondait-il en 1960 à ce qu'il ressentait encore un quart de siècle après, comme étant dans sa thèse de 1938 une concession trop grande au relativisme. Je vous remercie.
Merci. Alors, Perrine rappelait, bien entendu, les 18 leçons sur la société industrielle. Et je pense que le titre qu'a annoncé Daniel Cohen, Démocratie et société post-industrielle, fait d'une certaine manière écho au titre aaronien. Daniel Cohen, qui est professeur à l'ENS Ulm, vice-président de l'École d'économie de Paris, directeur du CEPREMAP, et auquel je passe la parole.
Merci beaucoup et pardon d'avoir un peu chamboulé votre emploi du temps à cause à la fois d'une appendicite et de l'enterrement de Pierre Mauroy. Donc je vais essayer de surmonter ces deux chocs et de vous parler donc de la façon d'aborder cette question de la société post-industrielle. Je ne sais pas dans quelle mesure je retrouverai les thèmes qui ont été annoncés par Perrine à la fin certainement. Au début aussi, en un mot, pour dire que, clairement, et Perrine l'a rappelé, la démarche d'Aaron consistait à analyser les sociétés industrielles. Ce qui était très important pour lui, c'était le pluriel. Il disait au début du livre qu'il voulait démontrer la diversité des sociétés industrielles. Diversité, ajoutait-il, qui ne sera probablement pas moindre que celle des sociétés pré-industrielles. Et donc, il avait parfaitement en tête l'analyse de cette diversité, et bien entendu la question centrale était pour lui la comparaison entre l'économie, on va dire, occidentale, américaine, et celle de l'URSS. Ayant posé ce préalable et ouvrant beaucoup de directions d'analyse au début du livre, il suit une démarche où il retrouve des points communs à ces sociétés industrielles, et d'ailleurs à ses yeux, la société russe, enfin de l'URSS, et l'économie de l'URSS et l'économie américaine, représente bien deux versants de ce qu'il appelait la société industrielle. Et les points communs qu'il donnait, de manière parfois d'ailleurs un peu éparse, c'était d'abord de concentrer les lieux de production en dehors de ce qui était l'habitat habituel de la production manufacturielle, c'est-à-dire en gros la famille, que ce soit d'ailleurs dans le cadre de la production artisanale ou dans le cadre des économies rurales. Et surtout, et c'est en ce point-là qu'il rejoint les analyses de Jean Forastier, il mettait en évidence que toutes les sociétés industrielles, il définissait les sociétés industrielles par cette quête systématique de gains de productivité en utilisant de manière systématique la science au service de l'économie, et que cette caractéristique-là, avec de degrés peut-être des succès inégaux, était bien partagée par les deux types d'économies. Alors, l'analyse des sociétés post-industrielles qu'il faut faire aujourd'hui ne peut évidemment pas être insensible au cadre général dans lequel l'analyse de leur pluralité éventuelle doit se poser. Nous sommes dans un monde, d'une certaine manière, parfaitement symétrique de celui diamétralement opposé, si on veut le dire aussi comme ça, à celui dont parlait Aron. Il ne s'agit plus de comparer l'économie soviétique à l'économie américaine. Le mur est tombé, et c'est dans un cadre tout à fait nouveau, celui de la mondialisation, qu'il faut penser la société post-industrielle. D'un mot, pour éviter tout malentendu, parler de société post-industrielle exige d'aller bien au-delà du simple constat que les économies se sont désindustrialisées, au sens où on serait passé, comme Forastier l'annonçait, dès 1948, d'une société industrielle à une société tertiarisée. Parce que si on s'en tenait à cette caractéristique-là, on ne pourrait pas dire que le travail d'une caissière de grand magasin est fondamentalement différent du travail d'un ES à l'époque. Donc c'est bien au-delà de la simple question des secteurs dans lesquels se joue cette transformation que la question doit se poser. C'est ça que je vais essayer de développer avec vous brièvement. Alors, pour avoir, au fond, un peu de recul historique sur ce qu'est cette société post-industrielle et la façon d'analyser, je crois qu'il faut l'analyser à l'aune de trois transformations majeures qui se produisent toutes, on va dire, pour simplifier, dans les années 80, et qui marquent la transformation radicale du monde dans lequel nous vivons maintenant, relativement à celui qui était analysé par Aron dans ses leçons sur la société industrielle. Alors, ces trois révolutions, elles sont, pour simplifier, on pourrait en conjuguer quelques-unes ou en rajouter deux ou trois autres, mais pour essayer de fixer un triangle de sustentation, je dirais, ces trois révolutions sont, premièrement, une révolution technologique, une nouvelle révolution industrielle, une révolution financière, une révolution associée à la financiarisation du monde, et troisièmement, stricto sensu, la mondialisation, au sens où on l'entend ordinairement, par la reconnaissance du fait que la Chine, l'Inde et d'immenses pays entrent désormais dans la logique du capitalisme mondial, alors qu'ils en étaient, pour l'essentiel, restés exclus, au moins jusqu'au milieu des années 70. Et c'est la mise en résonance de ces trois facteurs qui définit, je crois, le socle de cette société post-industrielle et de ses caractéristiques. Alors d'abord, révolution de l'information, révolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme on dit habituellement. Moi, je crois qu'on peut dire simplement qu'il s'agit en effet d'une troisième révolution industrielle qui fait suite aux deux autres qui ont précédé, la révolution industrielle de la fin du XVIIIe siècle, qu'on associe pour aller vite à la machine à vapeur, la seconde révolution qu'on associe à l'électricité, et cette troisième révolution, celle des technologies de l'information et de la communication. Cette révolution, elle vient comme les précédentes, au détour d'une grappe d'innovation, pour parler comme Schumpeter, qui se passe toutes dans les années 70-80 de la fin du siècle, du 18e, du 19e et du 20e, même si naturellement toutes ces innovations ont des histoires qui remontent toujours plus haut dans le temps, mais qui se catalysent à un moment donné. Donc notre révolution, c'est par exemple Intel en 1971 qui commercialise le premier microprocesseur. C'est le ministère de la Défense américain qui crée ARPANET en 1969 et qui allait produire progressivement tout cet ensemble de technologies qui allait culminer dans les années 90, à proprement parler, avec la révolution d'Internet. Alors chacune de ces révolutions industrielles, évidemment, ne sont jamais des révolutions techniques. Elles s'accompagnent toujours, ou elles sont précédées d'ailleurs parfois, d'une transformation radicale des conditions de production. La première révolution industrielle va créer le factory system. C'est justement le point que commente Aron. On sort les familles de leur lieu originel pour les entasser dans les usines. La deuxième révolution industrielle, c'est le taylorisme, c'est le travail à la chaîne qui a été rendu possible par l'électricité, qui permet d'alimenter les chaînes, mais évidemment dont les causes sont beaucoup plus complexes que cela et qui renvoient certainement aussi à la sociologie de la classe ouvrière au début du XXe siècle, une classe ouvrière immigrée qui ne parle pas l'anglais et dont Ford disait d'ailleurs, je ne lui demande ni de parler l'anglais, ni de savoir l'écrire, simplement de ne pas boire pendant qu'il travaille, et qui traduit bien qu'au-delà de l'électricité, il y a beaucoup d'autres choses qui se jouent derrière le travail à la chaîne. Et puis, de la même manière, cette troisième révolution industrielle va générer une remise à plat radicale de la conception du processus de production. Et je passe à la deuxième révolution, la révolution financière, qui va donner corps au potentiel de transformation, en tout cas dans un versant possible, et on va retrouver justement cette question des versants possibles des différentes sociétés post-industrielles, la révolution financière des années 80 qui va façonner tout ça. Alors la chronique est importante parce que j'ai dit que les premiers signes de cette révolution technologique sont dans les années 70, mais Internet lui-même n'apparaîtra à proprement parler que dans les années 90. Or, la révolution financière, elle est un phénomène des années 80. Cette révolution financière, elle a une histoire propre, de même qu'on pourrait faire une histoire des techniques, on peut faire aussi une histoire de cette révolution financière en remontant, je crois, assez simplement à la crise de 1929. Cette crise de 1929 a délégitimé profondément la bourse dans l'idée que l'on se faisait d'une gestion efficace des entreprises. Et dans les années 60, des gens comme Aron ou Galbraith ne font quasiment aucune référence à la bourse lorsqu'ils étudient le fonctionnement des sociétés industrielles. Galbraith, d'ailleurs, dans son Nouvel État industriel, dit « Les actionnaires qui ne sont pas contents de la façon dont les entreprises sont gérées, c'est simple, ils votent avec leurs pieds. Ils vendent leurs actions, ils vont ailleurs. » Il ne vient pas à l'idée de Galbraith, et je crois pas de Raymond Aron non plus, que le pouvoir actionnarial puisse justement choisir une autre voie que celle-là de vendre les actions des entreprises dont on considère qu'elles sont mal gérées. Dans les années 80, une révolution se produit aux États-Unis, pour aller vite là encore et en caricaturant, la révolution des fonds de pension, qui fait que les actionnaires veulent prendre le contrôle des entreprises dont ils sont légalement propriétaires et refusent justement la stratégie passive qui avait été la leur dans les années 50 et 60. Et ils reprennent le contrôle de l'organisation du travail. Alors, ça va produire un certain nombre de transformations considérables, dont l'objet, au fond, dont l'effet final sera de démanteler l'économie industrielle, la société industrielle, au sens où on l'entendait encore dans les années 50 et dans les années 60. Dans les années 50-60, l'âge d'or de la société industrielle, le type idéal du mode de production, c'était ces grandes entreprises, Renault, Citroën, pour reprendre d'ailleurs les deux exemples que donne Aron lui-même, dont il disait qu'il n'y avait pratiquement aucune espèce de différence dans la façon dont elles étaient conduites l'une relativement à l'autre, même si l'une, Citroën, était privée et l'autre, Renault, était nationalisée. C'était des entreprises dans lesquelles tous les échelons de la société se trouvaient représentés, les ouvriers, les contremaîtres, les ingénieurs, les dirigeants, et tout ça provoquait un peu à la Durkheim une forme de solidarité, j'ai envie de dire mécanique plus qu'organique d'ailleurs, entre ces différents échelons. À cette époque-là, aucun dirigeant d'entreprise n'aurait imaginé possible, pensable, d'augmenter son propre salaire si ça n'était pas sur fond d'une augmentation du salaire de ses ouvriers. Ça n'était tout simplement pas imaginable pour beaucoup de raisons. On pourrait toutes les énumérer, ça serait presque l'objet d'un cours. Mais le point que cite Aron, qui est la forte concentration ouvrière dans les lieux de production, à lui seul explique une partie des raisons pour lesquelles il n'était pas concevable de créer une telle dissociation. Eh bien, ce que va faire la révolution financière, son premier geste, il y en aura beaucoup d'autres que je vais décrire dans un instant, c'est de dissocier le destin des dirigeants d'entreprise de celui de leurs salariés. Dans les années 50-60, la question que se posent les économistes, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une seule firme au monde ? Pourquoi est-ce qu'il y a des marchés ? Question avec une littérature incroyable, puisque, au fond, le raisonnement est simple. Une firme fait toujours mieux qu'un marché, puisque comme cas particulier, elle peut faire ce que fait le marché, alors que le marché ne peut pas prendre comme cas particulier ce que fait qu'une entreprise. Donc, dans la façon de penser, ce que Williamson appellera l'opposition entre les markets and les hierarchies, les marchés, les organisations,
À cette époque-là, on pense que l'organisation est la forme stable et le marché, au fond, la forme qui est appelée à se réduire. Dans les business schools, à cette époque-là, à Harvard, par exemple, on enseigne aux entreprises l'art de la diversification de leur portefeuille d'activités industrielles. On explique, c'est un exemple apocryphe que je donne justement au début de ce livre, Les trois leçons sur la société post-industrielle, on explique à une entreprise qui fabriquerait des parapluies qu'il est bon aussi qu'elle fabrique des maillots de bain. Comme ça, l'entreprise peut se diversifier du risque de retournement conjoncturel ou industriel lié aux aléas de la conjoncture climatique. À partir des années 80, on va enseigner exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on ne va pas se poser la question de savoir pourquoi il n'y a qu'une seule firme, on se pose la question de savoir pourquoi il y a des firmes. Pourquoi l'espace des contrats que les marchés peuvent provoquer ne suffit pas à soi seul à remplacer ce qui se faisait avec les entreprises. L'exemple des parapluies et des maillots de bain, avec la financiarisation, va donner lieu à une leçon, une conclusion exactement inverse. Du point de vue de l'actionnaire, il est complètement stupide qu'une entreprise fabrique à la fois des parapluies et des maillots de bain, puisque l'actionnaire peut, lui, sur le marché financier, diversifier son risque en détenant une action de l'entreprise qui fabrique des maillots de bain et une action de l'entreprise qui fabrique des parapluies. Eh bien, le processus qui est engagé dans les années 80, c'est exactement celui-là. C'est le démantèlement progressif des solidarités qui pouvaient exister, des protections contre le risque qui avaient pu être fabriquées au cours des années 50 par la gestion des managers eux-mêmes, qui en réalité, étant des salariés comme les autres, partageaient exactement ce même objectif, ce même impératif de se protéger eux-mêmes du risque en même temps qu'ils protégeaient leurs entreprises et donc par conséquent leurs salariés aussi. Et en dissociant le destin des chefs d'entreprise du reste du salariat, les gestionnaires de fonds de pension, vont fabriquer cet extraordinaire éclatement, éparpillement de l'outil de production. Et l'externalisation des tâches inutiles va devenir le mot-clé de cette nouvelle époque dans laquelle les technologies de l'information et de la communication, qui permettent en effet une gestion beaucoup plus flexible de l'information bientôt aux quatre coins de la planète, va devenir l'instrument par lequel ce renversement copernicien de l'idée qu'on se fait de la gestion des firmes va se mettre en place. À l'époque, on se demandait pourquoi une firme plutôt que des marchés. Le rêve des chefs d'entreprise à partir de cette époque, c'est exactement le contraire, c'est le rêve d'entreprise sans usine, d'usine sans travailleurs. Et le démantèlement de cet outil de production commence, un de mes anciens élèves et jeunes collègues, Philippe Askenazy, l'a démontré, évidemment aux États-Unis, dans les lieux les plus hautement syndicalisés. On peut suivre à la trace comment le taux de syndicalisation aux États-Unis à cette époque-là permet d'anticiper le moment de la restructuration, de l'éclatement du processus de production. C'est bien évidemment, si on veut le dire comme ça, un moment de la lutte des classes très important qui se joue à cette époque-là. Alors le troisième acte de cette construction, c'est la mondialisation. Et là encore, je disais, la révolution technologique, elle a une histoire propre. Quand ARPANET est inventé, c'est pour permettre au Pentagone de résister à une attaque nucléaire de l'Union soviétique. Ce n'est pas exactement un projet économique, c'est ensuite qu'elle va trouver une voie qui va être celle que je vais dire. De même, la révolution financière, elle a une histoire propre et peut-être qu'on aurait pu en imaginer d'autres dans un autre contexte démographique aussi. C'est la pression des baby-boomers, la montée des fonds de pension qui va jouer un rôle très important, catalytique dans la transformation de la gestion des entreprises. De la même manière, la mondialisation, au sens le plus simple de l'entrée de la Chine puis de l'Inde et de tous les pays qui étaient restés soustraits pendant très longtemps au commerce international, a une histoire propre qui va très au-delà d'une histoire économique. Et là, bien entendu, il faut retrouver la pluralité de points de vue qui a toujours été celle de Raymond Aron dans l'analyse des phénomènes. Ce n'est pas sur un coup de fil de Wall Street que la Chine s'ouvre, que Deng Xiaoping décide d'adhérer à l'Organisation mondiale du commerce. C'est bien entendu par rapport à une logique beaucoup plus complexe et que je vous laisse esquisser sans m'y attarder. Mais ce qui est certain, c'est que avec cette mondialisation, le capitalisme, tel qu'il était en train de se reconfigurer dans les années 80, va trouver un terrain de jeu extraordinaire dans les années 90 qui vont lui donner son assise définitive. L'externalisation des tâches qui avait commencé dans les années 80-90 va devenir en partie de la délocalisation des tâches. Mais là encore, gardons bien la chronologie en tête. C'est dans les années 80 que se fait la révolution financière et le démantèlement des entreprises, comme je viens de décrire. C'est seulement, en réalité, dans la deuxième moitié des années 90 et la première moitié des années 2000 que l'entrée de la Chine dans le commerce mondial pointe son nez, en tout cas dans les statistiques du commerce mondial. Mais ce qui se produit à ce moment-là, c'est avec le commerce international une nouvelle configuration planétaire de ce nouveau capitalisme. Quand on étudie le commerce international, on voit qu'il change lui aussi totalement de forme par rapport à ce qu'il était auparavant. Pour le dire d'un mot très simple, au XIXe siècle, le commerce international était principalement guidé par ce que d'ailleurs Ricardo avait parfaitement anticipé au début du XIXe siècle, c'est-à-dire une spécialisation des tâches entre les producteurs de biens industriels et les producteurs de matières premières. Et l'idée qu'avait Ricardo, c'est les uns vont vendre du textile, les autres vont vendre du vin, tout le monde sera très content. Et c'est en gros, en effet, ce qui se passe tout au long du XIXe siècle. Au XXe siècle, le commerce international est surtout porté par l'échange de biens industriels eux-mêmes. Le modèle du commerce mondial, c'est le commerce intra-européen. Je vends des Volkswagen, j'achète des Renault ou le contraire. Bref, je change contre un produit contre un autre qui est en apparence de même nature. C'est ce qu'on appelle le commerce intra-branche et que les théoriciens nouveaux du commerce international, comme Paul Krugman, qui est célèbre maintenant de la grande opinion publique, ont mis en évidence assez tôt. Aujourd'hui, le commerce international ne correspond plus à ces statistiques. Il y a encore évidemment beaucoup de commerce de matières premières qui tend à redevenir un facteur très important et qui sera peut-être la question décisive au XXIe siècle. Il y a encore du commerce de produits industriels. On continue de vendre des Renault contre des Volkswagen. Mais plus de la moitié du commerce international aujourd'hui, c'est du commerce de produits intermédiaires. C'est des commerces d'une partie du processus de production. Quand on regarde le miracle allemand, comme on dit, on voit que l'essentiel de ce miracle tient au fait que la chaîne de valeur allemande s'est externalisée aux pays de l'ancienne Europe de l'Est et que c'est ça, avec un dernier coup de vis sur le territoire allemand, pour s'assurer que la qualité made in Germany soit au rendez-vous. Mais les statistiques du commerce allemand relativement au commerce français sont tout à fait ahurissantes. Dans l'espace de 15 ans, le commerce allemand est passé d'un niveau qui est à peu près celui de la France, 25-30% du PIB, à plus de 50%. Mais les importations aussi sont passées de 25-30 à plus de 50%, ce qui montre que presque du double, le commerce allemand a été augmenté sur ses composants intermédiaires, puisqu'il s'agit bien d'entrée et de sortie d'une étape du processus de fabrication. Les économistes qui ont découvert ce phénomène parlent de désintégration verticale de la chaîne de valeur, pour bien montrer que la chaîne de valeur qui auparavant se faisait au sein d'une même entreprise est maintenant écartée et éclatée aux quatre vents du monde. Et c'est bien cet ensemble-là, une révolution technologique qui permet un management totalement différent des flux de production à l'échelle de la planète, une révolution financière qui est l'acteur de cette mise en concurrence des différents producteurs par le marché au lieu de les intégrer dans la chaîne de production auparavant, et la mondialisation qui offre le terrain de jeu de ce capitalisme. J'ajoute d'ailleurs en un mot que si la révolution du capitalisme n'avait pas eu lieu dans les années 80, la mondialisation, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'aurait tout simplement pas été possible. Les Japonais sont rentrés dans le commerce mondial à l'ancienne, c'est-à-dire comme producteurs de biens finis, et ont éradiqué à peu près tous les secteurs dans lesquels ils se sont spécialisés, que ce soit l'optique, les motos et toutes sortes d'autres choses auxquelles on associe l'économie japonaise dans les années 60. Si cette transformation préalable du capitalisme contemporain ne s'était pas faite, la Chine et l'Inde n'aurait jamais pu recommencer ce qu'avait fait le Japon. C'est bien parce qu'on était déjà au préalable passé à une autre phase du capitalisme qu'on a pu fabriquer une organisation beaucoup plus flexible du travail dans laquelle la Chine a trouvé à s'insérer au cours des dix dernières années. Donc tout ça nous amène au fond à une caractérisation générale de l'économie post-industrielle qui est assez simple. C'est une économie dans laquelle on a réinventé en quelque sorte l'outil de travail. Et pour le dire, là, dans des termes un peu à la Fourastier, on peut dire que dans la spécialisation internationale du travail qui se dessine aujourd'hui, mais l'Allemagne que j'ai donnée est un contre-exemple qu'il faut garder en tête, on voit que le propre de l'économie post-industrielle, ça n'est plus dans la fabrication des biens. La fabrication qui était centrale, la figure de l'ouvrier était centrale dans la société industrielle, elle devient aujourd'hui, dans la société post-industrielle, elle devient mineure. Ce qui est important, ce sont les deux bouts de la chaîne, et c'est d'ailleurs les deux bouts de la chaîne que les pays riches cherchent à capter, à préserver dans la division internationale du travail, et que la Chine déjà est en train de leur contester. C'est la conception du bien en amont, concevoir l'automobile, ne fabriquer qu'une seule automobile, qui à une époque était d'ailleurs le rêve de Renault, fabriquer une seule voiture, la première, et laisser les autres se fabriquer ailleurs, plus ou moins à l'identique. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, la commercialisation du bien, la prescription du bien, qui s'appuie sur des campagnes de pub et qui s'appuie évidemment sur une chaîne de distributeurs. D'une certaine manière, ce qui représente bien ce qu'est devenu la société, l'économie post-industrielle, c'est l'industrie pharmaceutique. On invente une molécule, il y a un chercheur qui invente une molécule, et cette molécule a immédiatement un destin planétaire. Elle joue au maximum sur ce que les économistes appellent la loi des rendements croissants. Plus le marché est vaste, plus je vais pouvoir innover, plus je vais pouvoir amortir les dépenses de recherche et de développement qui sont à l'origine de cette molécule. Et à l'autre bout de la chaîne, j'ai le médecin qui va prescrire ce médicament. La fabrication stricto sensu du médicament n'a aucune espèce d'importance. Les Indiens peuvent le faire très bien, à bas coût. Et c'est ça, la figure générique de la société post-industrielle, une figure dans laquelle, au fond, même la production industrielle elle-même se tertiarise pour ne devenir qu'une séquence de process où on cherche à optimiser l'efficacité et la réduction des coûts. On voit donc, à partir de cette caractérisation, que l'économie post-industrielle va être forcément beaucoup plus éclatée, beaucoup moins intégratrice que n'était auparavant la société industrielle, presque par définition. Alors, rentrons brièvement dans les problèmes qui se posent, même si je pense qu'ils sont déjà assez clairs et sous-jacents. Le premier, c'est que la société post-industrielle n'offre plus du tout l'intégration qui était celle que la société industrielle pouvait offrir aux ouvriers. Aujourd'hui, le problème n'est pas tellement de savoir si on a des caissières plutôt que des OS, c'est qu'on a des caissières qui ne sont plus du tout intégrées dans le processus de production comme pouvaient l'être les ouvriers. Les ouvriers, à l'époque, pouvaient rêver de faire carrière dans l'entreprise. C'est ce que mon ami et collègue Stéphane Beau avait démontré. Il y avait une perspective de promotion. On pouvait devenir contremaître, on pouvait devenir cadre. 50% des cadres, c'est ce que montait aussi Christian Baudelot, n'avait tout simplement pas le bac dans les années 50-60. Aujourd'hui, c'est tout simplement impossible, en partie d'ailleurs, c'est un effet paradoxal de la démocratisation de l'accès à la scolarisation, mais on ne peut plus aujourd'hui concevoir le rôle de la classe ouvrière comme il était auparavant. Cette concentration ouvrière dont parlait Aron ayant disparu, le pouvoir ouvrier a été également éclaté. Le deuxième problème qui est lié intimement au premier, mais qui impose des problèmes aussi différents, c'est que si on regarde les États-Unis, qui est une espèce de laboratoire chimiquement pur des transformations de l'économie dont je suis en train de parler, la croissance est devenue totalement inégale. La montée des inégalités aux États-Unis, qui a été commentée là aussi par amis et collègues Piketty et Saez, est sans précédent dans l'histoire de ce pays. On dit d'ailleurs parfois qu'aux États-Unis, il y a deux pays en un. Il y a le 1% le plus riche, qui est une économie qui a un taux de croissance asiatique, c'est-à-dire que le taux de croissance du revenu est de l'ordre de 10% par an. Et puis, il y a 99% de la société qui a un taux de croissance européen, c'est-à-dire entre 0,5 et 1% l'an. Ce qu'ont démontré Piketty et Saez, c'est qu'au cours des 10 années qui ont précédé la crise de 2007, les deux tiers de la croissance économique américaine ont été captés par le 1% le plus riche. Ce qui veut dire que les 99% de la société ont en réalité cru à un rythme de un tiers du chiffre que vous pouvez lire. Donc quand on lit les États-Unis ont connu une croissance de 3% l'an, ça veut dire qu'il y a 2% pour le 1% le plus riche, mais que les 99%, les célèbres de Occupy Wall Street, nous sommes les 99%, ont en réalité connu un taux de croissance qui est celui que connaissent les Européens, les Français en tout cas, c'est-à-dire un taux de croissance beaucoup plus proche de 1%. Alors ce constat est parfaitement clair, connu, identifié. Son interprétation, bizarrement, reste très ouverte chez les économistes. Il y a une première interprétation parce que, entre autres, les périodes s'enchaînent et n'ont pas toutes la même coloration. Certainement, dans les années 80, la montée des inégalités tient à ce délitement de la classe ouvrière dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais la suite est plus complexe. Dans les années 90, le phénomène majeur tient au fait que les échelons intermédiaires du processus de production vont être à leur tour détruit par l'informatisation du monde. C'est-à-dire que le rôle des cadres, le rôle des intermédiaires, des contremaîtres, va être aussi dissipé. Et dans la crise actuelle, une étude récente montre que la destruction des emplois se fait surtout au milieu de la distribution de l'échelle des revenus, ce qui est un facteur qui contribue naturellement à la montée des inégalités, puisque c'est la classe moyenne qui est vidée, qui est tout simplement vidée de son cœur. Mais c'est par le très haut que s'explique essentiellement la hausse des inégalités dans les années 2000. Donc, si vous voulez, on peut faire une chronique. Les années 80, c'est la classe ouvrière. Dans les années 90, c'est les cadres. Mais le phénomène inégalitaire des années 2000, c'est la montée des revenus des très hauts dirigeants. Alors, il y a plusieurs explications à ça. L'une, c'est la financiarisation elle-même. Quand on regarde les statistiques de Fortune 500, les 25 managers de hedge funds dans ces 500 plus grandes entreprises américaines gagnent plus que les 475 autres dirigeants d'entreprises. Donc là, un signe très palpable des effets de la financiarisation sur la distribution du revenu. Mais il y a d'autres facteurs qui jouent. J'ai parlé tout à l'heure de rendement d'échelle. Le fait que la mondialisation offre un terrain de jeu à la production de toutes les activités, on va dire, immatérielles, celles qui se prêtent le mieux à une diffusion instantanée à l'ensemble du monde. La molécule qui peut soigner tous les corps, le film que tout le monde va vouloir voir, etc. Tout ça produit une société qui avait été très bien caractérisée par un économiste journaliste du Wall Street Journal, Robert Frank, qui disait « c'est une société où le winner takes all ». C'est une société dans laquelle le premier rafle tout et ne laisse aucune place au deuxième ou au troisième. Quand on voit d'ailleurs les best-sellers de livres, le premier fait 50% des ventes. Bon. Et il y a un coefficient qui s'appelle le coefficient de Pareto, qui est utilisé par les économistes pour voir justement comment, de manière presque fractale, les premières places prennent des parts de revenus relativement à la deuxième, relativement à la troisième, etc. Et en gros, la statistique simple, c'est que ce coefficient de Pareto a doublé entre le début des années 80 et maintenant, c'est-à-dire que le 1% le plus riche gagnait 8% au début de ce processus, il est passé à 25%, mais pour estimer le coefficient de Pareto, il faudrait faire, et c'est pas ça, comme ça qu'il faudrait le faire, il faudrait regarder la part du 10%, la part que le 1% capte dans le 10%, la part que le 0,1% capte dans le 1%, la part que le 0,01% capte dans le 0,1%. Et cette statistique, c'est que avant, ce X% captait en moyenne 25% de la part du décile auquel il appartenait, et on est passé à peu près aujourd'hui à une part captée de 50%. Donc je vais essayer de refaire le chiffre. Les 10% les plus riches aux États-Unis gagnent 50%, les 1% gagnent 25%, les 0,1% gagnent 50% de ces 25%, c'est-à-dire 12,5%. C'était exactement la moitié de tout ça dans les années 80. Le fait que ce soit fractal, le fait que ça s'observe partout est un défi pour les économistes, parce que les grands médecins, les grands avocats gagnent eux aussi beaucoup plus que les médecins et avocats moyens. Donc ce n'est pas simplement concentré dans les dirigeants d'entreprise, il y a véritablement un éclatement des normes de rémunération. Et d'ailleurs, c'est une des explications qui est aussi proposée, tout simplement que les normes sociales se sont effondrées au cours de cette période. Il n'y a plus aucune force de retenue qui permette aujourd'hui de lier entre elles les rémunérations des gens. Et donc, c'est d'ailleurs l'explication principale de Piketty. Les normes sociales en matière de rémunération se sont effondrées avec l'effondrement du mur, avec toute histoire qu'on peut raconter, beaucoup plus générale, du changement de climat politique au cours de cette période. Troisième problème de cette société post-industrielle, et à mes yeux, qui suis macroéconomiste, c'est plutôt le plus important, même si tout ce que je viens de dire, je crois, compte aussi beaucoup, c'est que le potentiel de croissance de cette économie post-industrielle n'est absolument pas assuré. En fait, on ne sait pas du tout si le potentiel de croissance de cette économie post-industrielle, où on fabrique quelques molécules et on vend quelques blockbusters, est-ce que ça aura le même potentiel de croissance que la société industrielle elle-même au cours du XXe siècle. On parlait tout à l'heure de la grande question des années 50-60 qui était la répartition des fruits de la croissance. Là, on est dans la non-répartition des non-fruits de la croissance. Un économiste comme Robert Gordon, qui enseigne à Northwestern, pense que la croissance a disparu, qu'on ne retrouvera jamais les rythmes de croissance qu'on a connus dans la société industrielle du XXe siècle. Et il donne des explications très convaincantes des raisons pour lesquelles ça se passe comme ça. Il dit, à la fin du XIXe siècle, la société industrielle balbutiante avait tout à inventer. Dans les villes, on vivait au milieu du crottin et de l'urine des chevaux. Il faisait à Chicago plus 50 pendant l'été et moins 50 pendant l'hiver. Et on a progressivement rendu la civilisation urbaine, qui est parfois l'autre nom à donner de cette société industrielle, on a rendu cette civilisation urbaine habitable. On a, grâce à l'électricité, plus besoin des bougies, grâce à la télévision, plus besoin de sortir, grâce au téléphone, plus besoin de se voir, même si on est dans la même ville. Et puis, on a 22 degrés toute l'année, on n'arrivera pas à aller au-delà. Les avions, dit Gordon, ne vont pas plus vite aujourd'hui qu'en 1970. Il fallait 15 heures à peu près pour faire Paris-New York en 1950, il fallait 7 heures en 1970, et maintenant c'est pareil. Maintenant, au fond, la production de gains de productivité vise tout simplement à rendre partageable par tous les gains qu'on a acquis pour nous-mêmes. Donc les avions ne vont pas plus vite, consomment moins de pétrole. Mais dit Gordon, c'est une question tout à fait différente. Là, ça veut dire qu'on doit économiser sur le pétrole parce que tout le monde veut prendre l'avion. Mais ça n'est plus un facteur de croissance comme la multiplication des vitesses a pu l'être. Donc il y a une véritable question, et au-delà de la curiosité intellectuelle, il y a une question, pour le coup, sociologique, politique, très importante. Parce que si les gains de productivité, qui sont le cœur de la société industrielle, comme le rappelait Aron, et auquel on peut, idée à laquelle on peut évidemment tous adhérer, si les gains de productivité sont beaucoup plus faibles aujourd'hui qu'ils n'étaient par le passé, ça veut dire que la recherche de gains de productivité, qui reste la matrice essentielle de la société industrielle, va se faire d'une autre manière. Mais de quelle manière ? Ben, par le surtravail. On est ramené exactement aux catégories du XIXe siècle. À partir du moment où le progrès technique ne devient plus l'adjuvant, comme il a été au XXe siècle, des gains de productivité, alors on voit bien que le surtravail devient la condition de croissance et de rentabilité. Et c'est ce que disait un dernier collègue que je vais citer, enfin je l'ai cité tout à l'heure, Philippe Askenazy. Il dit, au fond, la nouvelle technologie de l'information et de la communication, c'est un moyen de contrôle qui permet un néo-stakhanovisme. Dans la nouvelle société de l'information et de la communication, on travaille tout le temps. On n'a plus du tout la possibilité de s'attendre, d'attendre le client. On est sans cesse sollicité par des tâches. C'est ce que dit d'ailleurs Michel Aglietta aussi, d'une certaine façon. Si c'est l'intensification du travail qui est à l'origine de la croissance, on ne peut plus parler de gain de productivité. On est revenu à des catégories très, très classiques. Alors, je termine, j'ai peut-être un peu trop parlé déjà, je termine sur la question de la pluralité des sociétés. Et au fond, notre question à nous, relativement à celle que se posait Raymond Aron. Alors, à l'époque où il comparait l'économie américaine et l'économie soviétique. Alors, on pourrait réfléchir à l'organisation du travail, à essayer de voir toutes ces choses-là, et c'est ce que fait Philippe Askenazy très bien. Ce n'est pas le point que je vais souligner maintenant. Je crois que un des points très importants à saisir de cette société post-industrielle, et ça fait le lien avec là où je crois se trouve l'erreur de diagnostic de Gordon, c'est que les secteurs moteurs de cette société post-industrielle ne sont en effet plus dans la fabrication des biens à proprement parler. Ils ne le sont que par la réorganisation du processus de production, donc ça n'est plus du progrès technique au sens où on entendait habituellement. Les secteurs moteurs où il y aura du progrès au XXIe siècle, à coup sûr, ce sont des secteurs qui ont une caractéristique très simple. Ils ont beaucoup de mal à rentrer dans la logique de l'économie marchande. Ce sont la santé. Certains futurologues disent qu'on va peut-être devenir immortel à partir de 2050, selon un célèbre futurologue qui s'appelle Ray Kurzweil et qui dit « c'est dommage parce que je serais mort à ce moment-là et je ne pourrais pas en profiter ». Mais quand vous parlez à des médecins, ils prennent très au sérieux, non pas l'immortalité, mais le fait qu'on est peut-être, le titre de Kurzweil c'est « The singularity is near », très près protège peut-être d'une révolution fondamentale qui fait qu'à coup de prothèses, de choses diverses et variées, on va réussir à vivre beaucoup plus longtemps. La question, c'est que la santé et les autres secteurs moteurs de la société post-industrielle, que sont l'éducation, que sont la recherche scientifique, que sont même d'ailleurs le monde d'Internet, qui n'arrive absolument pas à trouver aujourd'hui un business model, ces secteurs rentrent mal dans le cadre d'une économie marchande. Ils rentrent mal dans le cadre d'une économie marchande parce que l'éducation est un bien plutôt collectif, tout comme la santé. Une découverte fondamentale comme celle dont parle Kurzweil, c'est évidemment immédiatement un bien public mondial. Si un vaccin contre le sida était découvert, on ne tolérerait pas qu'une entreprise privée le distribue chichement à proportion de la capacité à payer des clients. Et là, on est peut-être, dans le domaine de la recherche d'une pluralité de sociétés post-industrielles, à la veille ou en train d'observer une véritable bifurcation, avec des versants possibles que sont la société américaine où la marchandisation ne pose pas de problème de la santé et de l'éducation et les sociétés européennes où ça pose un problème. On n'accepte pas l'idée que l'éducation, la santé, en tout cas pour l'essentiel, soit, ou la recherche scientifique, soit des biens privatifs. La question, évidemment, c'est de ne pas se payer de mots. L'espèce de parallélisme que Aron avait introduit entre l'URSS et l'Union soviétique n'a pas tenu très longtemps. Et en réalité, il n'y a qu'un seul des deux modèles qui est là aujourd'hui. De même, chez les économistes, cette question est prise très au sérieux. Est-ce qu'il n'y a pas un fauné à croire qu'il y a deux versants possibles ? Deux de mes amis et collègues qui écrivent au MIT, Acemoglu et Robinson, ont écrit un livre, un article très, très technique, très mathématique, mais très plaisant à lire, dans lequel ils disent « Oui, nous voyons bien qu'il y a au monde deux types de capitalisme, en simplifiant les choses à l'extrême, deux versants. Un qu'ils appellent le « cutthroat capitalisme », on va dire le capitalisme sanglant, et un autre qu'ils appellent le « cuddy capitalisme », le capitalisme bienveillant. Voilà, le Danemark contre les États-Unis. Et on voudrait tous vivre au Danemark, c'est beaucoup plus agréable, ou en Suède. Mais ce n'est pas possible, disent-ils, parce que s'il n'y avait pas le cutthroat capitalisme américain pour innover, trouver les nouvelles technologies, etc., alors l'autre ne pourrait pas survivre. Je pense que la question est complètement ouverte en réalité. Il ne suffit pas de se promener avec deux ou trois statistiques pour dire, pour se convaincre qu'il n'y a qu'une seule forme d'innovation qui serait le cutthroat américain. Mais voilà, la boucle est bouclée, on est devant la même incertitude, la même forme de parallélisme entre ces deux versants de la société post-industrielle que Raymond Aron pouvait avoir rencontré pour la société industrielle. Voilà, je vous remercie.
Alors, je pense que les vertus du changement de programme sont évidentes à tous, puisqu'on a eu une approche qui était une approche plus interniste et qui reprenait les textes de Aron sur cette hypothèse de la convergence ou pas. Et très clairement, en tout cas, c'est le sucre, je pense, de l'argumentation de Perrine. Chez Aron, ça ne l'est pas, cette hypothèse de la similarisation ou la convergence des deux types d'économies. Et puis, on a la lecture actualisée, ou en tout cas la manière dont on peut mesurer ou pas les analyses de Aron à une société qui a fondamentalement... changer. Que se passe-t-il dans le cadre d'une société post-industrielle moins intégratrice et plus mondialisée? Que se passe-t-il lorsque les gains de productivité ne sont plus liés à la croissance mais à la seule réorganisation du travail et donc à l'hypothèse du surtravail? Que se passe-t-il lorsque se déplacent les frontières entre les régimes politiques tels qu'on pouvait les analyser dans le cadre d'une société industrielle? Tout ça fait un espace de discussion qui me paraît-il est intéressant.
Je suis complètement d'accord, mais est-ce que je me trompe sur le fait que le premier volume, la société industrielle, a eu beaucoup plus de succès que les autres et a entraîné un grand malentendu? Parce que on a tous passé, les disciples d'Aron, des années à dire qu'ils n'étaient pas pour la convergence. Duverger était pour la convergence, Galbraith, etc. Mais du fait que les sociétés industrielles, ils disaient fortement que rien ne ressemble plus à une usine de voitures américaine qu'une une voiture russe, et que quand on était en Inde, on se rendait compte des similitudes des sociétés industrielles. Mais il me semble que toute sa méthode, c'est le contraire de Marx, pour qui la base réelle, c'est l'économie, l'industrie, et le reste, c'est des superstructures. Et là, au contraire, on monte de l'économie, qui quand même, je crois, est une perspective de relative convergence, aux différences sociales qui sont très différentes. Et il était contre le fait d'appliquer la notion de groupe d'intérêt occidental à ce qui se passait en Union soviétique. Et là, la grande affaire pour lui comme pour nous, c'était l'opposition des régimes, la différence des régimes. Enfin, il y avait ça, et moi j'ai toujours regretté qu'il n'ait pas fait un grand volume de ces trois choses, parce que en lisant le premier séparément, ce qui a été le cas de beaucoup de gens, on l'a caractérisé comme la convergence. Ça, c'était le cas aussi pour un autre livre célèbre aux États-Unis, Brzezinski et Huntington, Political Power USA, USSR. Du moment qu'ils comparaient les deux, on a dit qu'ils rapprochaient les deux, que c'était pareil, alors que ce n'était pas du tout leur intention. Et Daniel, je voulais demander, mais je suis totalement ignorant en économie, comment se fait-il qu'un peu partout, il y a le thème de la réindustrialisation? Je me rappelle, il y a 20 ans, il y avait un article de Ray Vernon de Harvard qui disait « Why exports are becoming irrelevant ?» En disant, voilà, on peut laisser ça aux autres, nous, on est l'économie du tertiaire, du calcul, etc. Or, maintenant, aux États-Unis, il me semble, moi, je ne fais que regarder les journaux, mais on se lamente un peu comme à l'époque du Spoutnik. Nos ingénieurs ne sont plus bons, notre enseignement est interdit, on se fait dépasser par les Chinois, par tout ça. Et on a encore le privilège de l'innovation, mais bientôt, on ne l'aura plus. Il y a un grand grand cœur de lamentation. Et en Europe, encore plus, le problème, c'est comment réindustrialiser, alors que de ton exposé, on a plutôt l'impression que c'est dépassé, ça. C'était mes deux seules questions.
Je réponds aux deux. Alors d'abord sur le premier, non, je rigole, mais juste un mot. En relisant là, à l'hôpital les 18 leçons, il n'y a pas de doute possible qu'il y a une ambiguïté dans ce livre-là, hein, sur la question du parallélisme, puisqu'il explique bien au départ que naturellement l'économie n'est qu'une des entrées possibles, mais que si on choisit cette entrée-là, on va trouver des ressemblances entre les sociétés industrielles. Il y a même une phrase dans laquelle il dit, au niveau des grands groupes, c'est mon exemple Renault-Citroën, c'est différent, c'est paradoxalement plus bas. C'est un peu un terme un peu brodélien dans cette histoire que le capitalisme et le commerce longue distance. En bas, là, c'est très différent. Parce qu'en bas, on va trouver des petites boutiques d'ordre privé quand on est aux États-Unis, et on va trouver au contraire des magasins d'État quand on est en Union soviétique. Et j'ai eu l'impression quand même que c'était ça le point dans lequel il y avait pluralité de sociétés industrielles. Mais sur l'objectif partagé de mettre la science, la technique au service des gains de productivité dans les grands groupes, dans ce livre-là, il y a indiscutablement un appel à un parallélisme, même si, bien entendu, les premiers chapitres sur Montesquieu, machin, etc., rappellent bien que pour lui, ça n'est qu'une des entrées. Mais par cette porte-là, on trouve plus de ressemblances que par toutes les autres, évidemment, possibles. J'ai l'impression que c'est quand même...
C'est vrai qu'il y a la notion de puissance, quand même. L'idée que les économies occidentales poursuivent cette croissance pour le bien-être quand même des populations et que pour ce qui est de l'Union soviétique, la question de la puissance et la question du militaire, et ça, je n'ai pas eu le temps de le développer, mais ce serait extrêmement intéressant parce qu'on voit aussi ça s'articuler avec les analyses internationales des années 48, le grand schisme, et puis ce qui va venir après sur les relations internationales, donc cette notion de la puissance. Qui fait que quand même, en fin de compte, si tu veux, les intentions des uns et des autres sont quand même très, très différentes.
Donc sur la deuxième question maintenant, en effet, si c'est vrai que dans la présentation, je passe par pertes et profits l'industrie en disant qu'on n'en a pratiquement plus besoin, que n'importe qui peut assembler des voitures, alors que concevoir, commercialiser, aller mettre la paire de Nike au pied du consommateur, c'est beaucoup plus important que de la fabriquer elle-même. Et d'ailleurs, dans le calcul de la chaîne de valeur, la fabrication de la basket coûte, je crois, pour une basket qui est vendue, disons, $70, ça coûte 70 centimes. Tout le reste des coûts, c'est les matières premières, le transport, la conception et la publicité et la commercialisation. Alors pourquoi, si c'est si simple, il y a ce problème de la désindustrialisation? Pourquoi l'antienne est de revenir et de refaire fabriquer? Alors je crois qu'il y a deux explications. D'abord, en effet, je passe un peu vite par pertes et profits l'industrie, alors que l'industrie reste pour encore... le siège de 80% des échanges internationaux. C'est-à-dire que si on veut vendre à l'étranger, il faut un produit échangeable et l'industrie reste le produit échangeable par excellence. Pour le dire de manière un peu caricaturale, on a besoin de fabriquer des voitures parce qu'on a besoin de les exporter. Et on a besoin de les exporter pour acheter le pétrole qu'on met dans les voitures. C'est par ce raisonnement-là que l'industrie reste très importante. Des sociétés... Les économies les plus industrielles sont celles qui ont moins de difficultés à dégager des excédents. Une économie complètement tertiarisée, comme la Grande-Bretagne par exemple, elle ne souffre que de ça. Elle a un déficit de sa balance des paiements. Comment faire? Quel est le bien que je vais vendre aux autres qui va me permettre d'acheter le bien indispensable? Il y a souvent la question de la matière première. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, l'histoire se venge un peu bizarrement et l'industrie refait surface. Si on parle de relocalisation aux États-Unis de la production industrielle, c'est en toute hypothèse, dans une conception, une acceptation qui va être très différente de celle qui pouvait exister. On ne va pas reconstruire les usines Ford comme elles étaient auparavant. Donc de toute façon, le pli a été pris. Et c'est pour ça que le modèle allemand, en quelque sorte, est très intéressant. C'est-à-dire, l'industrie allemande, encore une fois, s'est réinventée parce qu'elle a pu bénéficier d'un arrière-pays, d'un hinterland qui est tout l'ensemble de l'Europe de l'Est. Par parenthèse, ce n'est pas l'ex-Allemagne de l'Est qui a servi de réservoir de main-d'œuvre, pas du tout, parce que ceux-là ont été très vite resyndicalisés, n'ont pas servi de réserve de main-d'œuvre à bas coût, mais c'est vraiment tout le reste des autres pays qui lui donne cette capacité de faire ce que je dis, c'est-à-dire la conception, l'externalisation de toutes les tâches et... Oui, l'originalité allemande, c'est le réassemblage. Alors, dernier point, si aux États-Unis, mais c'est lié au premier, la question se pose aussi, c'est parce que la révolution du gaz de schiste aux États-Unis est en train de donner
un avantage compétitif dans le domaine énergétique aux États-Unis qui rend possible de relocaliser un certain nombre d'activités qui sont intensives en matières premières. Donc oui, ça change aussi les choses. Donc oui, on ne peut pas passer l'industrie par pertes et profits à cause de cette dimension, je crois, essentielle qui est celle du commerce international. Et en toute hypothèse, si réindustrialisation il devait y avoir, elle se ferait, à l'évidence, à mon avis, dans le cadre que je viens de dire, d'une désintégration verticale, interne au pays peut-être, de la chaîne de valeur. Une parenthèse d'ailleurs sur l'Allemagne, c'est la question que se posent les Allemands maintenant, c'est bien de savoir s'ils vont ressembler aux États-Unis ou pas. C'est-à-dire que la question cruciale pour l'Allemagne des 50 prochaines années, c'est qu'elle va être confrontée à un effondrement démographique, alors même qu'elle devient un site de production, en partie, très attractif dans beaucoup de domaines. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'elle va attirer les migrants des autres pays européens pour compenser son vieillissement démographique? Est-ce qu'elle pourra se réinventer une nouvelle fois pour devenir une Amérique au sein du territoire européen, capable de devenir un lieu d'immigration? C'est un peu ce qui est en train de se passer. Ce qui est drôle du point de vue des économistes, c'est qu'on expliquait que l'Europe n'était pas une zone monétaire optimale, parce qu'une zone monétaire optimale, c'est une zone de libre circulation des personnes. Eh bien, l'euro fabrique une zone de libre circulation des personnes, parce que la contrainte, en effet, des économistes était la bonne. Ça ne peut pas fonctionner bien s'il n'y a pas cette soupape de sécurité.
Moi, j'ai une question ingénue, sans doute, mais elle me vient de la datation des cours dont tu as rappelé qu'ils donnent lieu après la trilogie. Parce que finalement, le milieu des années 50, c'est le lieu d'un débat qui est plus large que ce dont tu as parlé. Parce qu'on pourrait très bien... ma question est la suivante. Est-ce qu'on ne pourrait pas lire finalement les analyses de Aron, comme une réfutation de l'hypothèse de la convergence, contre l'idée de la détermination du politique par l'économique, et ça, tu l'as très bien dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi dire... C'est une certaine manière de répondre aux analyses qui, à l'époque, renvoient dos à dos les sociétés capitalistes et l'URSS à partir de la place, de la fonction et de la détermination du rôle de l'État. Et moi, je pense aux analyses qui sont développées par Socialisme ou Barbarie et par le premier, le fort, entre 49 et 58. Parce que finalement, quand on y pense, l'État, c'est exactement le point d'articulation, le point de jonction entre l'économie et le politique. Est-ce que ce qu'ont en commun les sociétés capitalistes et l'URSS dans les années 50, ça pourrait pas être, et bien entendu Aron est contre cette argumentation, mais il y a des gens qui le développent, cette fonction de l'État. Dans Socialisme ou Barbarie, dans les textes des années 50, on a en permanence et la critique de ce qui va donner la critique de la bureaucratie chez Lefort, donc la structure de l'État soviétique, et on a en même temps, à travers toute une série de textes, je pense à l'ouvrier américain, je pense aux analyses de l'État libéral américain, on a le renvoi dos à dos de ces deux critiques-là.
J'ai l'impression que le rôle de l'État, d'abord chez Aron, n'est pas très défini du point de vue de l'économique. C'est-à-dire, en réalité, et là encore, enfin, ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire que chez lui, ce qui est important, c'est vraiment ce qui est vraiment la clé, c'est cette notion de classe dirigeante. Et l'État, il me semble, n'apparaît pas tellement en tant que tel. C'est un instrument ou un lieu, donc, où se perpétue et en réalité où se joue finalement la lutte pour le pouvoir entre les élites dirigeantes. Second aspect de l'État, c'est effectivement ce qu'il analyse sous la forme de l'impulsion qui est donnée à la socialisation des économies occidentales à travers les transferts sociaux. Troisième moment de l'analyse de l'État, c'est effectivement tout ce qui tourne, alors du côté soviétique cette fois-ci, et il en refait d'ailleurs toute l'histoire, qui est extrêmement intéressante parce que qui est beaucoup beaucoup plus nuancée en réalité que ce dont on a le souvenir ou ce que l'opinion commune a l'habitude de penser, c'est cette association donc État-parti et la vision finalement moniste, unitaire de la société. Mais si tu veux, voilà, je crois que du côté occidental, c'est en tout cas sous le thème de l'État, beaucoup plus la circulation des élites qui l'intéresse, et avec relié à l'idée de régime et de démocratie plus que d'État lui-même, hein, il me semble. Alors moi, j'avais une question pour Daniel, mais si on te suit donc dans la bifurcation dont tu parles, ce qui me paraît extrêmement intéressant, c'est que d'une part, donc placé dans les États européens, du sud de l'Europe ou même en France, donc on devrait changer notre modèle si on voulait être économiquement efficace pour pouvoir faire rentrer dans le marché tous ces secteurs non marchands dont tu parles, c'est-à-dire l'éducation, la santé, Internet, que nous considérons comme devant encore rester des biens publics ou avoir un statut économique particulier. Or, si on changeait de modèle économique, évidemment, ce serait en même temps changer de modèle politique. Donc là, toute la tension, finalement, que Aron décelait dans la démocratie, où il montre, et c'est pour ça que ce matin, j'étais heureuse d'entendre Sylvie qui montrait son souci de réformisme, parce que il a vraiment toujours ce souci de la confrontation entre l'égalité de droit et les inégalités de fait. Si tu veux, cette tension qui, à mon avis, parcourt vraiment tout son travail, toute son œuvre, est une tension qui est toujours actuelle. Enfin, je veux dire, les données les données avec lesquelles il la décrit, on pourrait se dire que c'est le défi que va avoir à rencontrer, en tout cas, un pays comme la France dans les années qui viennent.
Non, il y a malentendu. Je vais reprendre ce point parce qu'il est très important. Non, je dis au contraire que la logique de ces secteurs post-industriels dont j'ai parlé, la recherche scientifique, Internet, la santé, l'éducation, ne les prêtent pas à être des secteurs marchands. Ils deviennent, c'est l'inverse. Ils deviennent inefficaces. Enfin, je reprends la démonstration pour que ce soit bien clair. Ils deviennent inefficaces quand ils deviennent marchands. Ils deviennent inefficaces quand ils deviennent marchands. Internet devient inefficace lorsqu'à toute force, on veut coller un business model qui va manifestement contre la logique que cet instrument permet de faire. L'éducation ou la santé, c'est pareil. Donc, je précise, j'ai été trop vite. C'est presque le contraire maintenant, c'est-à-dire qu'on est à front renversé. La logique de ces biens, c'est précisément de rester en dehors de l'économie marchande. On retrouve vraiment, d'ailleurs, d'une certaine manière, la contradiction entre les forces productives et les rapports de production dont parlait Marx. C'est-à-dire, ça marche pas bien quand on veut absolument, à coup de brevet, à chaque fois, estampiller toutes les découvertes. On sait bien que ça entrave les autres découvertes. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle le Brésil fait plus de découvertes en termes de sida, c'est parce que de médicaments contre le sida, c'est que parce que justement, ils ne sont pas tenus par la propriété intellectuelle, ils peuvent essayer toutes les molécules possibles, et du coup, ils en trouvent par définition plus que ceux que les laboratoires veulent faire. Mais je reprends le lien avec Gordon. C'est la logique de la croissance économique aujourd'hui. Si les secteurs qui sont porteurs, moteurs, ne sont plus dans le secteur marchand, alors on va vers une socialisation. Je l'ai dit trop vite, c'était la fin. On va vers une socialisation et là, on se retrouve dans une nouvelle bifurcation. Voilà. On se retrouve dans une nouvelle bifurcation avec d'un côté un capitalisme américain qui, lui, ne va pas hésiter à réintégrer dans le secteur marchand ces biens-là que nous n'arrivons pas à faire. Mais la querelle de l'efficacité, je pense qu'elle est de l'autre contrée, de l'autre côté. Mais en tout cas, on peut le laisser ouvert. C'est le lien que je faisais, là aussi trop rapidement, avec Acemoglu et Robinson. La querelle de l'efficacité n'est plus de même nature que celle qu'on pouvait observer en Union soviétique sur ce terrain-là. Et la question devient du coup très ouverte. Ce que disent Acemoglu et ses co-auteurs, c'est vous pouvez vous permettre d'avoir ces biens publics où tout est gratuit parce que nous crevons à faire des découvertes en passant par le moule de cette société très cutthroat que nous avons. Mais on peut vraiment tenir le raisonnement, je ne l'ai pas fait assez fort, exactement inverse, que c'est aux États-Unis que la logique de l'innovation peut s'étouffer si justement elle reste dans un cadre, elle veut à tout prix aller dans un cadre qui s'y prête très mal. Donc la question du gratuit et du payant, pour le dire comme ça, je crois, enfin pour le résumer très simplement, devient
Et la place des secteurs publics devient la nouvelle frontière entre les deux. Maintenant, encore une fois, je veux rester très agnostique. Ça serait complètement ridicule de dire nous sommes sûrs que le modèle danois peut survivre seul à l'abri du modèle américain. Ce serait ridicule. Mais aux États-Unis, même, on voit toutes ces tensions se manifester au sein des universités, où les unes acceptent, les autres protestent contre la tendance à faire signer des brevets à chacune des découvertes scientifiques fondamentales qui sont faites. Je crois que là, on est à une véritable croisée des chemins. Soyons modestes, mais voilà, je reformule dans les termes que tu as dit. Je crois que le paradoxe de la situation actuelle, c'est que l'a priori d'efficacité n'est plus du même côté aujourd'hui. Voilà, pour rester simple sur cette.